that's jazz music you're listening to.
No, it's jazz. The place is roaring, all beautiful girls in there, one mad brunette at the bar drunk with her boys.
Give me fever.
It's the beat to keep, it's the beat of the heart.
Bonsoir à tous, bienvenue au club Jazz FIP. Ce soir, plus africain que jamais, pour la première d'une série de 4 émissions African Jazz tout au long de ce mois de juillet, avec un maestro qui nous africanise et nous enchante depuis belle lurette sur les ondes de France Inter et de RFI, Vladimir Cagnolari. Bonsoir Vladimir et bienvenue au Club Jazz FIP.
Bonsoir à tous, bonsoir Charlotte Bibring. Et oui, on va parler African Jazz. On le sait bien, avec l'esclavage, les Africains ont transporté dans le Nouveau Monde leur rythme, leur manière de faire et aussi de sentir la musique. Et tout ça a ensuite infusé le blues, le jazz et bien d'autres musiques américaines. Et puis, par un curieux retour de boomerang, ces musiques afro-américaines sont revenues vers le continent africain. Et c'est ce retour du jazz en Afrique qu'on va évoquer ensemble. Un retour qui a donné naissance à de nouvelles musiques, parfois, faut bien le dire, très loin de ce qu'on appelle ici jazz.
Alors ce soir, pour la première, Vladimir, on met le cap sur la pointe, sur le bout du bout, la bonne espérance.
Et oui, on commence par l'Afrique du Sud parce que c'est sans doute le pays qui a été le plus influencé par le jazz américain. Bon, ça tient sans doute au fait que, comme les États-Unis, le pays a connu une longue et durable expérience de la ségrégation et bien sûr aussi de la lutte des Noirs pour s'en émanciper. Le jazz était évidemment au centre de tout cela, on va l'entendre, et les musiciens aussi qui vont témoigner de cette histoire, celle de l'apartheid, en musique.
Midlands Club Jazz FIP, c'était Nancy Jacobs and Her Sisters, un trio vocal inspiré des Andrews Sisters américaines. Et la chanson évoque l'expulsion des Noirs du centre-ville de Johannesburg pour être relogés dans le quartier lointain de Midlands, justement. Nous sommes dans les années 50 en Afrique du Sud et vous écoutez le Club Jazz FIP.
Charlotte, si vous le permettez, on va revenir un peu dans le temps.
Oui, Vladimir, je permets.
Alors, on va aller à la fin du 19e siècle, au moment où les Anglais et les Afrikaners, les colons hollandais, se disputent un pays qui, faut bien le dire, n'est pas le leur, mais celui des Zoulous, des Kossa, des Peti, des Soutous, bref, enfin, toutes les tribus ou nations africaines qui l'habitent depuis des siècles. Et l'histoire s'accélère quand on découvre de l'or dans la région justement de Johannesburg. Là, il faut faire venir de la main-d'œuvre africaine, des campagnes. Mais en ville, pour ne pas mélanger blancs et noirs, hein, c'est l'époque coloniale, eh bien, on alloue aux noirs des espaces réservés ou bien des bidonvilles proches de leur travail. Et le soir, dans ces coins-là, on joue du marabi, un style inspiré du ragtime américain, mais joué avec des accents sud-africains.
Et ça se passait, Vladimir, dans des bars clandestins qui s'appelaient
ça s'appelait les chebines, en fait. C'était un peu comme les speakeasy du temps de la prohibition, parce que, en Afrique du Sud, les Noirs n'avaient pas le droit officiellement d'ouvrir des débits de boissons. Du coup, ils se cachaient, et tout le monde, évidemment, dans les chebines, détalait quand la police descendait, ce qu'elle ne manquait évidemment jamais de faire.
Et alors, les musiques américaines arrivaient quand même à cette époque-là.
Ben oui, elles arrivaient parce que dès le début du XXe siècle, les missionnaires afro-américains vont arriver en Afrique du Sud et puis bien sûr plus tard grâce aux radios. Et ces églises noires, elles ont un rôle vraiment important parce que ce sont elles qui vont former des dizaines, des centaines, enfin plein de choristes et de musiciens. Et les chœurs d'église vont bientôt se frotter avec des chœurs qui existaient déjà, les chœurs traditionnels africains. Et c'est cette rencontre-là que vont naître des groupes vocaux comme celui de Solomon Linda, un jeune Zoulou parti chercher un job en ville et qui enregistre en 1939 Mboubé, un morceau promis à un bel avenir. 15 ans plus tard, il est repris aux États-Unis sous le titre de Wimoway et puis un peu partout dans le monde.
Alors là, on va écouter la toute première version. Alors écoutez bien, c'est important, elle démarre comme un train.
Mboubé, oh, Mboubé, 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 Mboubé,
Les Noirs sud-africains se souviennent bien du fameux train à vapeur qui les menait à la ville, dans les mines. Ce train, ils l'appelaient Stimela. Et c'est le titre de cette chanson du trompettiste Youb Masekela.
Stimela, si amba ngamalahle, si vele tala kubayi. Sangila tagwa kuka, pati sizo umba malahle. Stimela, si amba ngamalahle, si vele tala kubayi. Sangila tagwa kuka. But this is all by my life.
Au Club Jazz Afip, African Jazz, ce soir, première émission, destination l'Afrique du Sud. Stimela, le train à vapeur arrive à Joburg, la capitale.
Ouais, Joburg ou Egoli, la ville de l'or, comme l'appellent les Zoulous qui venaient travailler dans les mines d'or. Et tous ces mineurs, à l'époque, viennent des campagnes. Mais à la ville, évidemment, ils se mélangent, ils prennent de nouvelles habitudes et ils se créent une nouvelle culture. Une culture qui ressemble de plus en plus à un jazz populaire local, avec sa propre identité. Urbaine, noire et sud-africaine.
Kwela Blues, un blues de Little Lemima Basso qui lui aussi rappelle décidément l'univers des trains.
Et oui, et parce que Little Lemmy Special Mabasso, comme on l'appelait aussi, c'était le maître du Penny Whistle. Penny Whistle, c'est ce petit flutio qui coûtait un penny. C'était d'ailleurs l'instrument métallique le moins cher qu'on pouvait se procurer. Et c'était une petite flûte à six trous qui rappelait en même temps les flûtes traditionnelles qu'avaient les bergers dans les campagnes sud-africaines. Et d'ailleurs, ces bergers, ils arrivaient avec cette simple flûte à tirer toutes sortes de sons, voire à en jouer deux à la fois. Et d'ailleurs, j'en ai même vu à Johannesburg qui arrivait à en jouer avec les narines. Enfin bon, c'était peut-être pour épater la galerie. En tout cas, ce genre de swing qu'on entend là s'appelle la kwela. La kwela, alors le genre tire son nom de l'usage que les jeunes des quartiers noirs ou des townships faisaient pour prévenir les autres de l'arrivée des policiers. Et pourquoi on l'appelle kwela ? Parce que justement le panier à salade dans l'argot populaire de la rue là-bas, qu'on appelle le tzotzital, le panier à salade on l'appelait kwela kwela, donc ceci expliquerait cela.
Et alors cette flûte, on la retrouve pour accompagner avec guitare et contrebasse les groupes de jazz vocal, comme les Skylarks, et leur chanteuse vedette, une certaine Myriam Makeba.
Amazonas,
Nkomo's aux voix par Myriam Makeba et les Skylarks, un trio vocal comme il en pousse tant dans les années 50 en Afrique du Sud.
Oui, et à côté de ces formes locales, il y a aussi des fondus de jazz afro-américain qui est très à la mode dans les quartiers noirs de Johannesburg. Et certains groupes sont directement influencés par les Charlie Parker, Gillespie ou par Monk. Les Jazz Epistles, par exemple, c'est un band qui réunit entre autres le pianiste Dollar Brand, le saxophoniste Kippy Moketsi et le trompettiste Hugh Masekela.
Club Jazz FIP à l'instant, c'était Uka Djonga Pambili, les Jazz Epistles, premier groupe sud-africain estampillé jazz à enregistrer un disque. Nous étions, Vladimir, en 1959 à Johannesburg.
Oui, en ces années 50, alors que la plupart des pays d'Afrique, eux, sont en route vers l'indépendance, le régime d'apartheid, lui, devient de plus en plus dur, avec sa batterie de lois plus absurdes les unes que les autres, Je vais en citer quelques-unes, celles qui empêchent les relations sexuelles interraciales, à plus forte raison les mariages mixtes, celles qui empêchent blancs et noirs de prendre les mêmes bus, celles aussi qui les empêchent d'habiter aux mêmes endroits. Il faut dire que la grande peur des blancs, c'est d'être submergé par les noirs qui sont majoritaires. Et donc en ville, on détruit à cette époque les derniers quartiers où les noirs habitaient et où il y avait ces espaces de mixité qui existaient et où le jazz aussi pouvait exister. À Johannesburg, on rase le quartier de Sophiatown et on envoie des dizaines de milliers de personnes vers Soweto, le nouveau grand township construit par le gouvernement. En 56, Sophiatown est rebaptisé Triomphe. Les musiciens de jazz, eux, ne s'en remettront jamais. L'incontournable Myriam Makeba, elle, chante sa disparition. Sophiatown is gone.
Thank you.
Yakal Inkomo, qu'on ne vous traduira pas ce soir, un morceau de Winston Mankukugosi, saxophoniste qui est né à Cape Town, saxophoniste noir et qui a une histoire incroyable parce que justement il jouait parfois avec un big band blanc, ce qui était interdit.
Oui, ouais, exactement. Et dans ces cas-là, il devait se cacher derrière un rideau pour jouer justement avec l'orchestre blanc, parce que non seulement on n'avait pas le droit de composer des orchestres mixtes, mais aussi on n'avait pas le droit au public mixte. Et donc tout ça était évidemment encore interdit. Alors il y a un autre musicien dont on pourrait parler, parce que lui aussi vient du Cap, c'est Chris McGregor, parce que il est originaire du Cap, donc je l'ai dit, et c'est un pianiste blanc lui, qui est d'origine britannique, et toute sa vie, il va se battre pour jouer justement, et continuer à jouer du jazz, avec des musiciens de tous horizons, des noirs, des métis, des indiens, enfin bref, l'arc-en-ciel de l'Afrique du Sud, et en 62, il monte un groupe, les Blue Notes, avec lequel il enregistre un disque unique, sur lequel figure ce titre, Easy to Niwa.
African Jazz ce soir en Afrique du Sud avec Vladimir Cagnolari et dans nos oreilles et dans vos oreilles, c'était Is It Me Wa par les Blue Notes. Nous sommes en 1962 dans cette Afrique du Sud de l'apartheid, un groupe qui ne dure pas, éphémère, tant il devient compliqué à ce moment-là pour les musiciens de vivre de leur art. Beaucoup vont devoir d'ailleurs être contraints à l'exil.
Ouais, c'est le cas de Myriam Makeba et de Hugh Masekela qui, eux, vont devoir rester aux États-Unis. Ça sera aussi plus tard Chris McGregor, qu'on vient d'entendre, qui lui doit partir pour Londres, et puis aussi de Dollar Brand, le pianiste originaire du Cap, avec sa femme Satima Bea Benjamin. En Europe, ils vont rencontrer Duke Ellington, qui lui les prend sous son aile, et puis qui produit leur premier disque. Dollar Brand et sa femme partent ensuite pour les States. Là, ils jouent avec des grands noms du jazz, Archie Shepp, Coltrane et aussi Ornette Coleman. Et puis, le pianiste sud-africain s'engage dans le mouvement Black Power. Il se convertit à l'islam, change de nom et de Dollar Brand, il devient Abdullah Ibrahim. Alors, quand il est en Afrique du Sud, il était fan de jazz américain. Mais l'exil va ramener l'Afrique du Sud dans sa musique. Extrait d'un concert à Montreux en 1989. L'apartheid n'est toujours pas mort.
Thank you.
Deux extraits coup sur coup de cet enregistrement d'Abdullah Ibrahim, alias Dollar Brand, en concert à Montreux pour le festival jazz de Montreux. C'était en 1989. Abdullah Ibrahim, donc au piano, soprane, au sax-soprane et aussi au chant. Alors Vladimir, avec l'exil d'une grande partie des jazzmen, l'Afrique du Sud entre dans une période de long isolement.
Et comment ? D'abord parce que les musiciens ont de plus en plus de difficultés à sortir du pays. Et puis à l'intérieur, la censure veille aussi sur les importations de musique étrangère. Il y avait même un service dédié qui éventuellement, avec une lame de rasoir, grattait les vinyles pour empêcher que les chansons subversives puissent être écoutées. Et puis alors, il y a aussi cette idée que les dirigeants de l'apartheid, que les Zoulous fassent de la musique Zoulou, que les Kossa fassent de la musique traditionnelle Kossa, etc., etc. Avec des radios qui leur sont dédiées et qui sont censées émettre dans les langues, dans les réserves, les fameux Bantoustan. Mais les musiciens qui, en tout cas, restent au pays, continuent évidemment d'inventer, d'essayer de déjouer un petit peu toutes ces barrières qu'on met, et donc ils continuent de mélanger les influences et les apports des différentes cultures sud-africaines. Après le marabi, la kwela dont on a parlé, eh ben, il y a le jazz populaire des banlieues noires qui prend une nouvelle forme et un nouveau nom, le mbakang. Les guitares se sont électrifiées et elles intègrent des riffs qui puisent davantage dans les musiques traditionnelles, tout comme les trios vocaux, et l'un des plus célèbres de ces trios s'appelle les Maotela Queens.
Tu l'as dit,
Bagaba Queens, à l'instant Club Joséphine, c'était du Mbakanga d'Afrique du Sud dans les années 70, un style qui va lui aussi, Vladimir, se moderniser.
Oui, il va se moderniser. D'ailleurs, les synthétiseurs vont arriver dedans dans les années 80. Il y a notamment un titre qui est assez emblématique de ces années-là et de ce Mbakanga qui se modernise. C'est le titre Jive Soweto. Jive, c'était aussi un des noms d'une danse et de ce jazz populaire des townships d'Afrique du Sud. Et ce titre, il est signé d'un certain Sipho Hotstix Mabuse, Jive Soweto.
Mina ni lama kuchinalo, ulama kwenda ni kilo. Mina ni lama kuchinalo, ulama kwenda ni kilo. Mina ni lama kuchinalo.
African Jazz. Et pour finir, un petit dernier pour la route qui est tout un symbole.
Now we like to pray together by singing our anthem song, Nkosi Sikelela Afrika. God bless Africa. Nkosi Sikelela Afrika. Umalo phaka Jesu dumolwayo. Yizwa imithandazo yethu. Nkosi Sikelela.
Sikelela
thina lusapho lwayo. Nkosi Sikelela Afrika. Mano phaka Jesu phondo lwayo. Yizwa imithandazo yethu. Nkosi Sikelela.
Sikelela
thina lusapho lwayo.
Woza
Moya.
Vous avez entendu Nkosi Sikelela Afrika, Dieu bénisse l'Afrique, c'est la chanson qui deviendra l'hymne national sud-africain, interprétée par le quartet vocal Ladysmith Black Mambazo, originaire du township de Ladysmith, dans la région de Durban, c'est près de l'océan Indien. Le groupe va connaître le succès avec la tournée Graceland de Paul Simon, et puis il faut bien dire que le boycott international de l'Afrique du Sud, mais aussi la mobilisation des artistes, qu'ils soient africains ou occidentaux, et bien tout ça va compter dans la déliquescence du régime et du système apartheid. Le mur de Berlin tombe en 89, Mandela est libéré 3 mois plus tard et devient président en 94 d'une nation qu'il veut arc-en-ciel, comme le jazz de son pays.
Merci Vladimir pour ce premier plongeon passionnant dans le jazz africain. On vous retrouvera dimanche prochain pour un African Jazz au Ghana et puis les vendredis 21 et 28 juillet pour 2 autres escale africaine. Vivement dimanche prochain.
Au revoir.
À très bientôt. Avec nous ce soir, Philippe Cavallaria à la réalisation et Pierre Faucillon au mixage. Très belle soirée à tous sur FIP.